pouvons ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12e. Et nous lirons les trois premiers versets. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. Dans la prière que nous venons de faire et aussi dans certains cantiques, nous retrouvons un peu justement cette endurance qui est attendue de chaque chrétien, de chaque croyant dans ce monde où, sujet à des difficultés, sujet à de l'adversité, il peut être amené à se dire que c'est trop dur pour moi. C'est pas possible, je ne peux pas. Et donc, dans cette prière, encore une fois, nous avons parlé du fait qu'il y a quelquefois des nuages qui viennent comme nous masquer ou masquer à nos regards les rayons du soleil ou le soleil dans sa splendeur. Et en pensant justement à tout cela, ces quelques versets peuvent nous donner encore des éléments d'encouragement à poursuivre. Ici, il nous est parlé de la course. Ailleurs, bien sûr, on sait qu'il nous est aussi montré la vie chrétienne comme étant une marche. Mais ici, dans la course qui est devant nous, on a tendance à penser que c'est plutôt une course de fond. Ce n'est pas un sprint qui ne dure que quelques secondes, qui nécessite un effort particulier pour quelques secondes. Si c'est un 100 mètres, ça sera moins de 10 secondes, un 200 peut-être 19 secondes. Mais là, si on peut faire une comparaison avec le monde de l'athlétisme, est-ce que ce serait plutôt pas un marathon où nous devrons non seulement courir, mais tenir 40 km, sinon plus, dans des conditions que nous connaissons, c'est-à-dire sujet aux intempéries, au terrain qui peut être glissant à certains moments, qui peut être plus difficile avec les pieds, avec les foules quelquefois qui entourent les pistes. Bref, sujet à tout ce qui entoure une vie, si on peut dire, dans un monde agité. Et donc, pour ces Hébreux, toujours bien de rappeler que pour eux aussi, ils étaient sortis pour saisir cette espérance et ils ont été sujets à de l'adversité. Leur foi, qui déjà était éprouvée du fait qu'ils devaient accepter que le judaïsme n'était plus cette base sur laquelle il devait s'approcher de Dieu. Tout ce que la loi renfermait n'étant que des ombres, il devait sont séparés progressivement pour venir vers Christ. Eh bien, à côté de ce chemin qui était le leur, l'adversité va venir justement aussi de la part de ceux qui, comme eux, juifs ou tout au moins judaïsants, s'opposaient à eux et étaient prêts justement à attaquer leur foi. D'où cette épître et ces quelques paroles d'encouragement. Chapitre 10 même, il leur demande de ne pas abandonner le rassemblement d'eux-mêmes. Avant, il leur dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et ce que vous avez eu à faire. Donc, le découragement était certainement dans les alentours. Et je pense que cela peut aussi nous concerner en ces temps, l'apôtre écrivant à Timothée pouvait dire que dans les derniers jours viendra des temps fâcheux, les gens seront égoïstes, auront la forme de la piété tout en reniant ce qui en fait la force, et combien cela nous parle en nos jours. On veut marcher avec le Seigneur, on veut prendre sa part dans cette course que le Seigneur a achevée, lui le consommateur de la foi. Mais en même temps, on voit que beaucoup abandonnent. Et on peut se poser la question, peut-être que c'est moi qui fais trop de zèle, peut-être que c'est maintenant la norme que de courir un peu, de s'arrêter aussi, peut-être même de se retirer, d'aller vaquer à ses occupations ou de rechercher ses aises dans ce monde, et après qu'on va encore se souvenir ou reprendre suffisamment de force, reprendre la course et courir. C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, eh bien l'écrivain dit, rejetant tout fardeau, il a placé devant eux justement ces témoins de la foi, en ayant précisé que pour tous ces témoins-là, ils ont salué les choses qui leur avaient été promises. Ils les ont vues comme de loin, mais ils ne les ont pas obtenues. Est-ce à dire que leur foi était vaine? Certainement pas. Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous. Et donc, si on peut se joindre à ces Hébreux, qui nous aussi avons quitté, sommes sortis. Et je pense que dans le mot hébreu, il y a aussi cette signification de ceux qui sont sortis, de ceux qui sont sortis de quelque part. Nous voyons que ce soit depuis ce chapitre premier jusqu'à la fin de cet épître, il parle du passé, Dieu ayant autrefois, il nous présente notre avenir. En Christ, bien sûr. Combien il est assuré. Combien il est beau. Et donc, c'est à cet avenir-là, c'est à encore parler de cette espérance vivante-là, que ces écrits veulent attacher justement ceux auxquels ces écrits sont adressés. Il y a des gens qui abandonnent. Il y a de ceux qui ont bien commencé, mais qui finalement se lassent du chemin, parce que, ayant rencontré des difficultés, parce que, ayant trouvé que, il n'y avait plus comme cette chaleur, peut-être, dans la marche. Alors donc, on dit, nous avons des témoins, nous avons des modèles qui nous sont présentés, qui ont connu diverses situations. Nous avons Moïse ayant appris auprès dans la maison du Pharaon, selon toute la sagesse de l'Égypte, est-il écrit, qui après abandonne cela parce qu'il avait les yeux fixés. Bien sûr, il y a des David, il y a des Gédéons, Et donc, ayant toutes ces personnes devant nous, toutes ces vies de foi devant nous, nous est dit nous aussi, comme pour dire que pareil à eux, bien rejetant tout fardeau. Et on a parlé de ces nuages. Et ici, le fardeau est mis à côté du péché. Donc on peut facilement se dire que probablement que ici n'est pas parlé, il n'est pas question de péché positif en tant que tel. Il n'est pas fait mention de quelque chose qui est un abandon ou un refus de la volonté de Dieu. Mais on peut voir dans ce mot fardeau qui, dans sa signification, est quelque chose de lourd, lourd à porter. On ne va pas dire que la tête est un fardeau pour un être humain. On ne va pas dire que la tête, c'est un fardeau. La tête, c'est... Voilà. Pourtant, si on peut la peser, pour ceux qui ont fait l'anatomie, ils diront que non, c'est une partie non considérable de la masse corporelle. Mais ce n'est pas un fardeau. Et donc, on comprend que le fardeau s'apparenterait à tout ce qui peut être normal, mais finit par nous donner matière à perdre courage, à s'asseoir, à retarder même notre course, à nous alourdir. Donc, toutes ces choses-là font partie de notre quotidien. Pour certains, ça peut même être des choses vraiment légitimes. Leur travail, leurs études, leur vie de couple. Et ça peut aussi, malheureusement, être le service pour le Seigneur. Parce qu'on ne le fait plus dans la dépendance. Eh bien, ça devient un fardeau. Et cela, justement, fait que la course qu'on est amené à courir, et on l'a déjà dit, qui n'est pas un sprint, mais qui est vraiment une course qui va commencer, on sait tous, quand on a reçu le Seigneur, quand on a été appelé du Seigneur, l'appel est le même. Toi, suis-moi, bien sûr. Chacun y répond selon ce que le Seigneur a placé en lui. Mais quand il a commencé, le terme, c'est le Seigneur qui le connaît. Va-t-on déloger avant qu'il ne revienne? Nous trouvera-t-il? Lui le connaît, le terme. Nous ne le connaissons pas. Donc, on ne peut pas mettre un minuteur pour dire, je cours 2 minutes, je me repose 1 minute, je cours 3 minutes, je me repose 1 minute. In fine, quand j'additionne, j'ai plus couru que je me suis reposé. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est le Seigneur qui en connaît le terme. Ce que je viens de dire, que on ne va pas attendre que ce qu'on avait programmé dans notre minuteur, ce temps de repos ou ce temps d'accalmie dans nos vies, dans notre course, intervienne pour faire ce qui nous est demandé ici, de rejeter tout fardeau. Et c'est au participe présent, ça veut justement, ça nous montre que c'est quelque chose qu'on fait en même temps. Je pense que le verbe qui est ici, c'est courir. Mais en même temps que nous courons, rejetons. N'attendons pas, ne nous disons pas que, ouais, je pense que là, je peux encore supporter ce fardeau. Il n'y a aucun fardeau que nous devons porter. Nous devons tous les rejeter sur celui qui a soin de nous. Rejetons sur lui tous nos fardeaux. N'attendons pas un moment pour nous propice, que l'on considérerait de propice. Et souvent, c'est justement ce que nous faisons parce que le Seigneur nous accorde, c'est encore dans cet épître qui nous est dit que nous avons libre accès au trône de la grâce. Mais ce libre accès, combien nous-mêmes nous le conditionnons, combien nous-mêmes nous le rendons payant. Pensons que, en y allant une fois, 1000 fois dans la journée, on en diminuerait la valeur, ou bien on en diminuerait les quantités restantes. Est-ce vraiment la pensée du Seigneur? Certainement pas. Mais il nous est dit, en regardant toutes ces personnes-là, qui ont été avant nous dans cette course, qui ont eu aussi des difficultés, qui ont eu aussi de l'adversité, qui ont eu certainement des questions, peut-être des doutes, rejetant tout fardeau. Nous, nous avons cette grâce-là, justement, de savoir à qui nous pouvons nous tourner, à tout moment. Un salut toujours facile à trouver. Des oreilles toujours prêtes à nous écouter. Jamais trop occupées pour faire attendre ces rachetés. Rejetons alors. Et encore peut-être, on le sait, mais dans rejeter, on peut prendre ces deux aspects où tu jettes, mais à l'opposé du sens que toi tu suis. C'est pas que je reporte mon fardeau, non, je le jette. Si je suis en train d'aller vers la droite, eh bien ce fardeau, normalement quand on le rejette, il se retrouve à gauche, il ne se retrouve pas à droite, mais 2 mètres plus loin. Et il y a cet autre aspect aussi où c'est remettre sur quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, si on peut s'arrêter qu'à ces deux significations, on se rend bien compte que ça ne nous appartient plus. Ce n'est plus notre sujet une fois qu'on l'a présenté au Seigneur, une fois qu'on l'a remis au pied du Seigneur. On ne s'en occupe plus. On ne le porte plus. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de rejeter ce fardeau. On ne nous dit pas comment le Seigneur fera pour s'en débarrasser, à quel moment on aura la conscience qu'on est allégé. Ça, ce n'est pas nous. Notre mission ou notre tâche, si on peut parler d'une tâche, notre responsabilité, c'est de tout simplement aller au pied du Seigneur, dire « Seigneur, voici telle situation qui m'empêche de courir aisément, librement, cette course. » Mais on a parlé justement du fardeau, mais à côté, il y a aussi le péché. Et aussi longtemps, on le dit, qu'on est sur cette terre, étant dans cette tente, dans cette chair, eh bien, le péché, à chaque moment, à chaque instant, tentera de venir reprendre de l'activité en nous, tout au moins dans cette nature adamique que nous avons. Viendra toujours toquer à la porte et attendre à la porte pour qu'on lui ouvre d'une façon ou d'une autre. Ce qui revient à dire que nous devons aussi être veillants sur tout ce qui nous est déjà présenté comme quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, qui n'est pas selon la volonté du Seigneur. Ce qui revient à dire que pour distinguer que si c'est un péché, forcément, il faut connaître la volonté du Seigneur. Bien sûr, on n'a pas dit qu'on la connaîtra parfaitement, mais le Seigneur nous donne toujours, quand on se tourne vers lui, la réponse à notre question, à notre besoin. Et donc, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément. Et les copistes ayant mis ce verbe au singulier, est-ce que c'est plus le péché qui nous enveloppe si aisément? On peut l'admettre. Mais ça nous dit encore une fois que ce n'est pas quelque chose de, on peut dire, d'extraordinaire. C'est quelque chose de fréquent. D'où les ressources qui nous sont données. Les ressources qui nous sont données à tout moment de notre marche. Si on confesse nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. toutes les ressources nous sont données. Courons avec patience. C'est cette invitation-là. Courons avec patience. Nous avons fait 10 ans dans la foi. Nous avons marché en regardant au Seigneur. Et dernièrement encore, le Seigneur nous a bénis avec cette méditation sur Enoch, qui lui a marché avec le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur, pas un jour, mais il nous a marché avec le Seigneur 3 décennies. Donc on peut voir cette persévérance-là. Le fait qu'à chaque pas, ici, pour la course, on se dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je vais arriver. Et toujours dans ce verset, ou dans ce petit paragraphe, verset 3, l'exemple du Seigneur, bien sûr, le modèle par excellence nous est donné. Il nous est dit que le Seigneur, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix ayant méprisé la honte. Donc, en considérant le Seigneur proche de la croix, que ce soit à Gethsémané ou quand il fixait son regard sur Jérusalem, cette ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés, eh bien, lui, on peut dire, il traversait la scène de la croix. Il regardait la honte avec ce saint mépris pour dire que mais cette honte, elle est intense, elle est forte. Personne ne l'a jamais connue, ne la connaîtra. Mais cette honte n'arrive pas à voiler les bénéfices, les résultats bénis qui sont après, qui viendront après. On les a lus dans ces quelques passages, que ce soit dans les prophètes. Ce qui lui est réservé après la honte, après la croix. Et donc cette joie a été, si on peut dire ainsi, c'est le leitmotiv qui a fait que son cœur bouillonnant se dit la joie de voir la volonté de mon Père faite, la joie de voir les fruits bénis de mon œuvre m'entourant pour l'adoration de Dieu, de mon Père, qui est devenu aussi leur Père. La joie de voir que ceux qui étaient pécheurs perdus, qui n'avaient aucune espérance, qui ne pouvaient se sauver eux-mêmes, puissent enfin entrer librement, pleinement, dans des bénédictions jusqu'alors inimaginables. Eh bien, cette joie-là faisait que la difficulté, parce qu'elle était bien là, la peine, elle était bien là, l'opprobre, on ne lui a pas épargné, la croix affreuse, eh bien, était vue, était appréciée dans leur juste mesure. Chose que Dieu seul pouvait faire, que nous, certainement, nous ne pouvons pas. De loin, on la voit. Mais lui voyait cela. Et tout cela n'était pas à même d'écorcher la joie qui était devant lui. Elle n'était pas encore là, mais elle était devant lui. Et ça lui permettait, ça, c'était ce carburant-là qui lui donnait d'avancer. Voilà ce qui nous est présenté. Pour que dans notre course, la patience aussi fasse partie. Pour que dans notre course, justement, nous ne puissions pas nous arrêter aux difficultés. Effectivement, nous avons des difficultés dans le parcours. Que ce soit dans ce monde qui tout entier gît dans le méchant, que ce soit de l'ennemi de nos âmes, qui ne cesse de chercher à tout moment à nous éloigner du Seigneur, mais aussi dans nos corps, sujets à la faiblesse. On peut avoir ce sentiment que arrêtons-nous, faisons une pause, faisons une halte. J'ai servi le Seigneur 45 ans. Pourquoi ne pas me reposer un peu et puis je vais reprendre? Non, courons avec patience. La patience, je pense, ne prend fin qu'une fois qu'on a reçu ce qu'on attend. Or, si on n'a pas reçu et qu'on s'arrête et qu'on se satisfasse d'autre chose que de ce qu'on a si longtemps attendu ou de la promesse, de l'espérance qui nous a engagés dans la course, alors nous aurons perdu tout le temps, un peu comme ce vœu de Nazaréa là. Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle? Certainement pas. C'est pour cela que les devanciers de la foi nous sont présentés. Courons avec patience la course qui est devant nous. Et voilà. D'un côté, on s'était délesté de tout ce qui pouvait nous alourdir. Et encore une fois, en rappelant ces éléments de la course de fond de ces marathoniens, souvent on se rend compte qu'ils ont des tissus souvent légers. Voilà, même les chaussures de course sont légères. Ils n'ont même pas de bouteille d'eau. C'est à des points d'eau qu'ils se rafraîchissent. Donc, ce fait qu'ils se soient délestés de tout est une chose. Mais c'est pas le Seigneur nous donne pleinement les ressources nécessaires. Après avoir considéré, ou après avoir plutôt rejeté tous ces fardeaux et le péché, bien, c'est toujours le Seigneur qui est notre ressource. Fixons les yeux sur Jésus. Fixons les yeux sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. On en a parlé déjà et c'est toujours le Seigneur qui est éclaire notre course chrétienne, parce que rien ne lui avait été épargné sur cette terre. Il nous a dit, il y a même des pécheurs qui se sont permis de le contredire. C'est sûr que nous n'entrons pas dans ce cadre-là, parce que nous-mêmes nous sommes pécheurs, donc voilà. Si nous sommes repris, si nous sommes contredits, ou si nous sommes même sujets à l'adversité, on ne pourra jamais dire que nous, on est parfait dans l'affaire. Jamais. Le Seigneur seul le pouvait. Mais il a supporté. Il a enduré. Justement, à cause de cette joie-là, à cause de ce fruit, des conséquences bénies qui devaient s'en suivre. Allait-il, comme cela lui était demandé, répondre au blasphème de la foule? Si tu es fils de Dieu, descendant de la croix, et nous croirons en toi. Ce n'était pas de ce niveau-là, ce n'était pas de ces aspirations-là que le Seigneur pouvait justement satisfaire son cœur, parce qu'il avait quelque chose de meilleur. Une fois que cette chose est atteinte, toutes les autres choses, d'une certaine façon, sont éclairées et prennent leur véritable valeur. On peut se dire que il avait parfaitement raison de ne pas répondre à ces défis, à toutes ces paroles contradictoires contre lui-même. Et donc, nous aussi, à cause de cette espérance d'être dans la présence du Seigneur, de lui être semblable, enfin de le voir, celui qui a ravi nos cœurs, eh bien, nous pouvons considérer les fardeaux et les péchés, les rejeter sur lui, rejeter à sa croix et fixer les regards sur lui. Toute sa personne étant adorable, nous trouverons toujours ce qui va nous donner de la force. Que ce soit sa chevelure, que ce soit ses yeux, que ce soit sa bouche, que ce soit ses mains tendres et pourtant puissantes, que ce soit ses pieds, que ce soit sa ceinture, toute sa personne, en la considérant dans notre situation, nous donnera justement la ressource nécessaire pour continuer la course. Et parmi nos devanciers, on retrouve Paul dans la deuxième épître, sa deuxième épître à Timothée. Eh bien, à partir du chapitre 4, à partir du verset 6, et le temps de mon départ, deuxième partie, est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Voyons justement le terme de son pèlerinage. Il pouvait ainsi engager également son enfant dans la foi, Timothée, à suivre ce chemin. Il a, bien sûr par anticipation, puisqu'il n'avait pas encore délogé, mais par la grâce que le Seigneur lui a faite, il dit « j'ai achevé la course ». Course qu'il avait entamée il y a bien longtemps, certainement après avoir, sur le chemin de Damas, rencontré le Seigneur. Eh bien, il a gardé. Et il pouvait aussi dire justement qu'il vivait de discipline. Parce que justement cette course, c'est vrai, ceux de ce monde courent pour un prix corruptible, pour un prix qui va passer. Aujourd'hui, tu as été champion du monde, tu as peut-être fait le record du monde ou je ne sais quoi. Dans 10 ans, je ne pense pas que tu vas le garder, ou dans 50 ans. D'autres viendront et prendront ce prix, ce qui a été pour toi l'objet de tant de sacrifices. Mais pour nous, nous savons que notre prix est garanti. Que notre espérance est bien loin de ce que la roue ou la teigne peuvent atteindre, de ce que l'homme peut corrompre, de ce que aucune autre créature peut corrompre. Parce qu'elle est garantie par le Seigneur. Elle est dans le Seigneur. Notre espérance n'est-elle pas justement d'être avec lui, de le voir, de vivre avec lui? Et c'est ce qui fait que justement, quand ces Hébreux qui certainement connaissaient l'adversité, la difficulté, connaissaient l'épreuve quant à leur foi, pouvaient relire ces quelques passages, ces quelques mots qui leur avaient été adressés, eh bien, ils pouvaient relever la tête pour dire que nous sommes de ceux que le Seigneur a appelés à la course. Et ce qu'il a lui commencé, c'est lui-même aussi qui va l'achever. Et alors, poursuivons notre course. Parce que ce qu'il a commencé, lui aussi, a le pouvoir de l'achever pour sa gloire. Et donc, pour nous aussi, en ces quelques mots, que nous puissions aussi revoir encore une fois ces quelques fardeaux qui nous alourdissent dans la marche, dans la course, et peut-être le péché qui est toujours à côté, prêt à s'immiscer dans notre cœur pour nous pousser justement à faire notre propre volonté, et en plus celle du Seigneur. Mais fixant, en rejetant cela, fixant encore une fois les yeux sur Jésus, qui nous donnera la ressource nécessaire pour achever la course que lui nous a donné à faire.